une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNBA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et cette année, je me suis entouré d'une team de journalistes éco pour décortiquer avec moi encore plus de sujets. Aujourd'hui, je laisse la parole à Mounia Clément, qui va nous parler de Jack Lang, de Paris Plus et de François Pinault. Salut Mounia.
Salut Emmanuel. Eh bien oui, c'est exactement ça. Figure-toi que Paris redevient une grande place de l'art moderne et contemporain, comme l'a rappelé à juste titre Emmanuel Macron fin octobre lors de sa visite au Grand Palais éphémère. D'ailleurs, moi aussi j'aurais bien fait un petit tour à Paris Plus, la foire d'art moderne et contemporain, version Art Basel. Mais à 40 euros l'entrée, je me suis abstenue. Je ne conteste pas le tarif. Néanmoins, je trouve que ça limite l'accès aux catégories socio-professionnelles les plus aisées et ça entretient le côté élitiste du marché de l'art. Évidemment, quand on voit que ce qui a été vendu à Paris Plus sont des œuvres à 6 ou 7 chiffres, on se dit bien qu'on ne fait pas partie du même monde. Ce marché s'adresse exclusivement aux riches, qu'ils ou elles soient des particuliers, des collectionneurs ou des entrepreneurs, car ils ont le porte-monnaie adéquat. Mais alors, si c'est un marché réservé aux plus fortunés, pourquoi est-ce que l'État le favorise-t-il avec une fiscalité spécifique ? Pourquoi les œuvres d'art sont-elles défiscalisées ? Pour bien comprendre, il faut d'abord étudier la rentabilité des investissements dans l'art contemporain. Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que le marché se porte bien, en témoignent les ventes records à la foire Paris Plus. L'année dernière, déjà, les ventes d'œuvres d'art contemporain ont atteint un nouveau record à 2,7 milliards de dollars selon le rapport annuel d'Art Price, soit une hausse de 60% par rapport à 2020, certes figée par les restrictions sanitaires. Par rapport à 2019, la hausse est tout de même de 28% et depuis 2000, le marché ne cesse d'évoluer à la hausse.
Dis-moi, ça m'a l'air d'un investissement intéressant. Est-ce que tu peux me confirmer ça, Mounia, avant que je place quelques billes, moi aussi, dans l'art contemporain ?
Eh bien, détrompe-toi, Emmanuel, et garde ton chéquier bien au chaud. Un tel investissement est en fait bien plus risqué qu'il n'y paraît.
Attention ! Attention ! Attention !
En même temps, c'est vrai que ça peut s'avérer fiscalement intéressant pour certains ou certaines, les personnes assujetties à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière.
Faut vivre dangereusement.
Pourtant, ce que la littérature économique a tendance à montrer, au contraire, c'est qu'investir dans l'art contemporain à long terme est bien moins rentable qu'un placement boursier. Ici, on ne parle pas de la spéculation à court terme, bien entendu. Cela dit, je te comprends, car les médias ont tendance à évoquer des prix records et des opérations mirobolantes qui laissent miroiter de juteux placements, comme nous le rappelle Nathalie Moureau, professeure de sciences économiques à l'université Paul-Valéry, Montpellier. Mais avant toute chose, et pour bien comprendre son fonctionnement, observons ce marché de plus près. Qui achète des œuvres d'art aujourd'hui et dans quel but ? Est-ce pour l'amour de l'art ? Pour faire des économies d'impôts ? Nathalie Moureau.
Alors déjà, il y a beaucoup de personnes qui achètent de l'art contemporain, qui l'achètent pour un motif de collection, parce qu'ils ont une certaine appétence pour l'art. Mais bien sûr, il n'y a jamais de motifs qui sont complètement... pur. Il y a toujours une variété de motivations, donc il y a des motifs qui sont liés à l'intérêt pour l'art. Il y a des motifs qui sont sociaux aussi. Pour posséder une œuvre d'art, c'est un certain positionnement social. Et bien sûr, il y a des motifs qui sont en termes de placement financier. Et les trois peuvent, dans la réalité, être mixés les uns avec les autres. Mais en même temps, les prix records qui existent aujourd'hui par rapport à certaines œuvres d'art et par rapport à l'art contemporain donnent à penser que l'art, c'est extrêmement rentable, c'est un investissement juteux, etc.
Et pour cause, comme nous le rappelle Nathalie Moureau, les médias influencent l'opinion publique en ce sens. Cela ressort notamment dans deux exemples célèbres, souvent cités en économie de la culture.
Il y a quelques exemples qu'on reprend toujours par rapport à ça, qui sont l'association de la peau de l'ours, qui date de 1904, qui avait acheté une centaine d'œuvres d'artistes en 1904, qui avait été dispersée en 1914 à Drouot. Et là, il y avait eu un investissement qui semblait très très rentable, puisque, et par exemple, les saltimbanques de Picasso avaient été vendues pour 12 500 francs, alors qu'ils avaient été acquis uniquement 1 000 à l'acquisition. Donc là, on a eu l'impression que c'était très, très juteux. Mais en fait, tous les travaux conduits après récusent un peu cette idée-là. Il y a eu un autre exemple, c'était la British Railway Company, qui faisait une collection pour payer les retraites. Enfin, c'était un fonds de retraite. Et ils avaient investi en 1974, ils avaient fait une collection d'œuvres. Ils avaient 2400 œuvres où il y avait de la peinture, de la sculpture, des bronzes, des livres, des meubles, de la joaillerie. Et puis aussi des œuvres de vieux maîtres, de peintres et d'impressionnistes. Et ils ont commencé à disperser les fonds en 1987. Et à ce moment-là, en 88, il y avait à peu près 1 000 œuvres qui avaient été vendues et l'investissement initial a été multiplié par 3. Donc tout le monde, tous les journaux ont dit l'investissement en art, c'est très très important, c'est très rentable. Mais ce qui était vendu, c'était les œuvres impressionnistes, essentiellement, et de la porcelaine chinoise. Et une fois que toute la collection a été vendue quelques années plus tard, en 2000, on s'est rendu compte qu'il y avait un rendement en termes réels uniquement de 4%, ce qui est inférieur au placement boursier.
Bon, si je comprends bien, il vaut mieux que j'investisse dans quelques actions et obligations, d'autant plus que depuis mon dernier épisode sur le sujet, je suis incollable.
L'homme que je reçois aujourd'hui a la particularité de tout savoir, il s'appelle Bruno. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Alors Bruno, vous êtes l'homme qui sait tout, c'est ça ?
Je savais que vous alliez me poser cette question.
En effet, Emmanuel, cela semble plus raisonnable. Donc si tu comptais vider ton livret A pour investir dans une œuvre d'un artiste contemporain, je te dirais attends un peu et mise plutôt sur des actions dans un premier temps. Car contrairement à un investissement dans l'art, tu n'auras pas besoin de payer de frais de stockage ou d'assurance. Et quand tu auras fait fortune en bourse, là, pour diversifier ton portefeuille, tu pourras songer à l'art contemporain, comme l'explique Nathalie Moureau.
Quand on compare l'évolution des marchés financiers de la bourse et du marché de l'art, il y a un décalage. Donc, il y a certains économistes qui ont fait des études pour montrer que c'était entre 18 mois et 2 ans. C'est-à-dire que quand la bourse se casse la figure, c'est à peu près 18 mois ou 2 ans après que le marché de l'art se casse la figure. Donc du coup, dans une optique de diversification de portefeuille pour réduire les risques, c'est bien aussi de diversifier, d'avoir à la fois des actions et à la fois des œuvres d'art. Mais en gros, quand même, la leçon qu'il faut retirer, et qui est plutôt bonne, hein, c'est que finalement, si on achète des œuvres d'art, avant tout, c'est pour l'intérêt qu'on peut avoir pour ces œuvres d'art, plus que pour un placement financier à proprement parler.
Bon, donc tu as compris, Emmanuel, si un jour tu fais fortune, l'art contemporain est une bonne option, d'autant que, je te rappelle au cas où, que cet investissement est défiscalisé. Attention, ça ne veut pas dire qu'on peut déduire de ses impôts le montant des œuvres d'art achetées, comme c'est le cas pour les dons faits à des associations, par exemple. Sinon, ça coûterait une fortune à l'État. Ça veut simplement dire que cela ne rentre pas dans le calcul de l'assiette fiscale de l'impôt sur la fortune. Encore faut-il y être assujetti. Cela ne concerne en effet que les plus riches, dont le patrimoine immobilier est supérieur à 1,3 million d'euros. En d'autres termes, s'ils investissent dans l'art contemporain en créant une collection, la valeur de ce patrimoine-là ne sera pas comptée, et donc pas d'imposition supplémentaire. Mais ce n'est pas nouveau, hein, ça fait 40 ans que cette mesure existe.
Mais comment ça se fait, ça ? Est-ce que tu peux nous expliquer la raison de ce régime fiscal particulier ?
Eh bien, c'est à Jack Lang que l'on doit cette mesure qui a été mise en place en 1982. Et à l'époque, cela faisait consensus d'ailleurs. Alors pour commencer, voyons le côté pratique de la chose. En effet, il est assez délicat d'évaluer la valeur des œuvres, du fait d'une grande variabilité. Du coup, en décidant de ne pas les compter dans le patrimoine des plus fortunés, ça simplifie le calcul.
J'ai fait un bel investissement, ça n'a pas de prix, c'est le monochrome de Wakeman là-dessus.
Ah oui, oui. Gardons bien.
C'est vrai que ça apporte. Attends. Oui.
Ensuite, il faut voir cette mesure sous un prisme plus macro, comme une façon d'accompagner le marché de l'art. Il y a une logique économique derrière. Comme c'est un actif très risqué, on préfère inciter les agents qui prennent un tel risque pour acheter des œuvres d'art qui vont constituer le patrimoine culturel de demain. En gros, les musées peuvent compter sur 3 types de financement. 1. Les subventions de l'État. 2. Les ressources privées, le mécénat et les dons ou legs en argent ou en œuvres. Et 3. Les recettes tirées des visites, de la vente d'objets culturels annexes et depuis peu d'autres prestations de services comme la location de salles par exemple. Or, il faut savoir que probablement plus de la moitié des œuvres présentes dans les musées proviennent de dons faits par des particuliers. Et quand on parle de particuliers, il s'agit de grosses fortunes assujetties à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui possède en général une collection et pas seulement une ou deux toiles. Mais pendant longtemps, la France a été très en retard au niveau du mécénat et notre pays comptait également très peu de collectionneurs et de fondations. D'où la volonté de l'État de relancer ses acteurs dans l'écosystème culturel avec des mesures fiscalement intéressantes. Ce qui permet au passage de compenser une diminution des subventions publiques. Nathalie Moureau.
Dans les années 80, les pouvoirs publics étaient très très présents dans les achats d'œuvres parce que justement, il y a ce décalage qui peut exister entre le moment où l'artiste fait son travail et où c'est accepté et reconnu dans le public. Donc il y avait un soutien de la part des pouvoirs publics dans les années 80 assez conséquent, à tel point qu'on disait qu'on avait un art officiel où les pouvoirs publics étaient trop présents. Et aujourd'hui, il y a un relais qui est pris par les particuliers, c'est d'une autre façon, justement, par cette exonération via l'ISF. C'est un moyen de les inciter à acheter des œuvres d'art et ce qui constituera notre patrimoine de demain. Donc c'est une explication, il peut y avoir une justification, voilà. C'est pas juste une niche fiscale, il y a le fait qu'il y a un risque qui est pris et qui demain reviendra à tout un chacun parce que ça sera dans les musées.
Puis, cette première mesure prise sous Mitterrand a été complétée en 2003 par la loi Ayagon sur le mécénat, qui était beaucoup moins développée en France qu'à l'étranger. Cela permet aux entreprises de déduire de leurs résultats imposables le montant de la valeur des œuvres d'art pourvu qu'elles soient accessibles au public. Cependant, cette mesure est remise en question à l'heure actuelle et le comité professionnel des galeries d'art se bat pour tenter de pérenniser ce dispositif en disant que les achats d'entreprises sont devenus assez importants dans leur chiffre d'affaires. En effet, si on ne permet plus aux entreprises de déduire de leur chiffre d'affaires le montant de leurs achats en art contemporain, alors ils n'achèteront plus d'œuvres d'art, ou beaucoup moins. Et du coup, les galeries, elles, ne seront pas contentes car leur chiffre d'affaires, à elles, va baisser de façon conséquente. Donc si on supprimait cette niche fiscale, alors il y aurait moins d'investisseurs dans l'art contemporain, moins de mécènes et in fine cela nuirait au marché. Le patrimoine culturel national serait moins riche et le public aurait donc moins d'œuvres à sa disposition. Nathalie Moureau.
C'est un peu incompréhensible cette évolution, mais récemment il y a eu des discussions sur cette loi sur le mécénat, plus largement, mais pas sur les achats d'œuvres d'art, sur cette loi sur le mécénat, qui profitait de façon un peu injuste à quelques grands mécènes, donc notamment, pour ne pas les citer, Pinault et Arnault. Enfin, il y a eu un rapport qui montrait que les montants qui ne payaient pas en termes d'impôts au titre de cet investissement étaient colossaux, et en même temps, tout le monde connaît LVMH, sa fondation, etc. Et ça participait de son image. Donc c'était un peu injuste d'avoir ces déductions fiscales parce que c'était pas si désintéressé que ça. Donc ça a été beaucoup discuté. C'est à ce moment-là que il y a eu aussi cette volonté d'enlever ces éléments au titre des achats d'œuvres d'art. Et c'est curieux parce que dans la loi, à la fois, ils voulaient inciter les PME, etc., à pouvoir investir dans l'art. Donc, il y a eu des remaniements de plafond, il y a eu des baisses de plafond pour les grosses entreprises. Et ils ont abrogé ces éléments-là, alors qu'ils voulaient aussi inciter à l'achat d'œuvres d'art. Donc, c'est un peu incompréhensible, mais je pense qu'il y a des questions budgétaires. Et puis, de toute façon, le marché de l'art est un marché qui a très mauvaise presse dans le grand public. Parce que ce qu'on voit, ce qu'on entend du marché de l'art, c'est justement des choses qui sont très... des prix éclatants, des enchères millionnaires, etc., qui semblent complètement indécentes, et qu'ils sont d'ailleurs, mais c'est uniquement une part réduite du marché de l'art. C'est-à-dire qu'il y a un nombre très réduit de transactions sur le marché de l'art qui atteignent des montants faramineux.
Finalement, cette loi semble donc plus injuste qu'il n'y paraît, car elle bénéficie surtout aux plus riches entreprises.
Je suis choqué.
De plus, les conséquences ne sont pas aussi vertueuses que ce que l'on pouvait en attendre. Ainsi, on assiste à un déplacement des fonds des musées publics qui ont de moins en moins d'argent vers les fondations privées qui proposent des expositions plus prestigieuses. Nathalie Moureau.
Mais Pinault, même si laisse dire que ça a le statut de fondation, parce que sûrement ça lui donne une image de personne généreuse, etc. En fait, c'est privé, ça n'a pas le statut de fondation. Mais c'est vrai que c'est l'émergence de ces structures fait une certaine concurrence, d'une certaine façon, au musée, parce que ces personnes, ces entrepreneurs, quand ils financent leurs expositions ou leurs musées, ou ils mettent quand même beaucoup d'argent dans leur fondation, peut-être c'est des fonds qui sont en moins pour faire du mécénat auprès des musées publics, ce qu'ils faisaient par le passé très largement. Donc c'était une source de finances importante qui, sûrement, ils vont mettre leur argent plutôt dans leur fondation que dans les musées. C'est la première chose. Deuxième chose, du fait des évolutions budgétaires, les musées ont de moins en moins de budget et de fonds pour faire leurs expositions. Du coup, dans les propositions des musées, c'est souvent moins prestigieux que ce qu'on peut avoir sur les fondations. Et même si on regarde la dernière exposition, par exemple, de Charleret, qui avait à la fois la Bourse du Commerce et à Beaubourg et à Pompidou, au centre Pompidou, au musée, il y avait quelques œuvres qui étaient présentées de l'artiste et le must de l'exposition, on ne le trouvait pas dans le musée public, on le retrouvait un peu plus loin à la Bourse du Commerce chez Pinault.
Donc d'un côté, les musées publics continuent de s'appauvrir, tandis que de l'autre, les fondations privées font floresse. Et par ailleurs, on peut imaginer un mélange des genres qui va finalement bénéficier toujours plus aux propriétaires de ces fondations et alimenter une possible spéculation, dans la mesure où les artistes qui y sont exposés peuvent peut-être prendre de la valeur plus facilement, ce qui va arranger les Pinault, Arnault et consorts.
Mais alors qu'est-ce que tu veux dire par là ? Que les fondations servent de vitrine pour leurs propriétaires ?
Eh bien oui, c'est exactement ça. Je veux dire que si un artiste est exposé à la fondation LVMH, par exemple, et que son propriétaire Bernard Arnault possède lui-même dans sa collection personnelle des œuvres de ce même artiste, cela peut l'avantager, dans la mesure où la cote de l'artiste en question prendra plus facilement de la valeur après l'exposition. Tu me suis ?
Ok, je vois où tu veux en venir. Au bout du compte, dans cette logique, on assiste à une concentration du marché qui devient un oligopole avec frange concurrentielle. Autrement dit, le pouvoir financier est désormais concentré entre les mains de quelques gros acteurs, Pinault, Arnault, qui dominent le marché.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas pour le marché du livre-disque-cinéma. En fait, depuis une vingtaine d'années, on assiste à l'émergence de très grands collectionneurs et collectionneuses qui ont un pouvoir financier très important. C'est un fait qui est lié à l'évolution du nombre de milliardaires dans le monde et donc de très gros fonds privés qui peuvent avoir des musées particuliers. Pas uniquement en France d'ailleurs, les gros collectionneurs ont leurs musées privés et sont alliés avec quelques grosses galeries qui peuvent faire la pluie et le beau temps sur le marché.
Merci Mounia. Si je comprends bien, finalement, cette niche fiscale n'a pas grand impact sur les finances de l'État. En revanche, elle joue un rôle considérable pour enrichir et préserver le patrimoine national culturel. Avec un gros revers quand même, une concentration grandissante de ce patrimoine dans les mains des plus riches. Si vous aussi vous avez aimé cet épisode et Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify, ça nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain!
Splash est un podcast produit par Nouvelles Écoutes,
écrit et animé par Mounia Clément,
en compagnie d'Emmanuel Martin, chargé de production Mathilde Jona, avec l'aide de Xavier Kamaki, prise de son, montage et mixage Adrien Beccaria, à l'arrière-boutique studio, directrice des productions Marion Gourdon.